mensonge par omission. Amour des fautes, des faux semblants. Infante des fautes, se pavanant. Étrange crainte en y. Hors du temps et porte en main de fois longtemps à se maintenir longtemps. Le temps ne...
Amour des feintes, c'était Jane Birkin. Absolument désolée de ne pas pouvoir l'écouter jusqu'au bout. Vous êtes encore pour quelques instants dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Oui, quelques annonces rapidement avant de céder la parole. Pour rappeler que du 21 septembre, nous y sommes déjà au 21 octobre, c'est le mois d'action internationale pour exiger la libération de Georges Abdallah. Il entame sa 40e année de prison et il est libérable depuis 24 ans. Je vous laisse faire le compte. Donc voilà, un mois d'action internationale. Quelques annonces des animations de la librairie Publico, 145 rue Amelot. Ce samedi 7 octobre à 16h, projection débat d'un film de 30 minutes de Jean-Baptiste Rivoire qui s'intitule « Khalifa, l'étrange milliardaire algérien ». L'histoire d'un type devenu milliardaire et qui aujourd'hui est dans les prisons. Donc une ascension fulgurante, mais une chute un peu terrible aussi. Donc samedi 7 octobre, 16h, projection débat, un film de Jean-Baptiste Rivoire, Khalifa, l'étrange milliardaire algérien. Le 12 octobre à 19h, concert, toujours à Publico, de Gaëtan Henrion, c'est de la chanson. Samedi 14 octobre à 16h, il y aura une présentation débat du numéro 50 de la revue Réfraction, et ce numéro 50 couronne les 25 ans de la revue, c'est pas rien. Mardi 17 octobre à 19h, Michel Bernard présentera un livre « Quand vous me rendrez visite » et sera accompagné de quelques chansons. Le 21 octobre de 18h à 21h, une mobilisation Antifa à la librairie Publico, DJ7 Antifa du groupe MQM, Agnès Extrafic, me dit-on, je n'en sais pas plus. Le 22 octobre, journée d'action antinucléaire, nous donnerons des précisions là-dessus. Et puis le dimanche 29 octobre, concert Rock Against Fascism avec les groupes NoRep et Catharsis. Voilà, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.
Et on va se quitter avec Ridan, rentre chez toi. Au revoir.
J'ai mon chemin, j'ai pas trouvé ma voie. J'ai pas trouvé les mots pour devenir quelqu'un de bien. J'ai volé un dico pour bien causer la France. Pas besoin d'être Rimbaud pour bien comprendre qu'on veut pas de toi. J'ai pas non plus ma place dans cet appartement. J'crois que mon appartenance nie encore plus que mon odeur. J'peux pas être l'inconnu qui t'offre des bouquets de fleurs. J'ai la couleur du beurre que la vie transforme en balayeur. J'ai longuement hésité à refaire mes bagages. Ici les gens sont fous et ne se nourrissent que de rage. Il faudrait qu'on leur dise combien nous sommes chez nous. Qu'avec ou sans papier, de toute manière partout c'est chez moi. J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez toi. J'aurais pu être blanc. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière. est un échec. Ma vie n'était qu'un jeu où il vaut mieux étroit que jeune de banlieue. J'en parle à l'imparfait, mais le temps ne change plus. Le passé m'a fait mal et le futur m'a pas plu. J'ai le choix entre la rue et les promesses volées. On construit de nos mains l'empire de nos aînés. Mieux vaut qu'on fasse sans toi, au risque de vivre dehors. Mieux vaut qu'on fasse sans toi, chaque seconde c'est de l'or. Pas le temps pour être heureux, c'est aujourd'hui demain. Nous bâtirons tout seul l'avenir de nos prochains. C'est pas la NPE qui va me filer mon pain. La France, la paix chère, sois le bienvenu chez moi.
J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez toi. J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez toi. Bienvenue chez toi, rentre chez toi. Bienvenue chez toi. C'est pas ton bout de papier qui va me dire où c'est chez moi. La terre de ma terre, c'est partout où je mets les pieds. Qu'il soit noir ou qu'il soit rouge, sincèrement je m'en fiche. Dans la bêtise de ce monde, j'aurais mieux fait d'être riche. J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez toi. J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez toi.
Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Pasteur n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de glep. Mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole. Chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? Sans semer du qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main, par où donc que cheminerai demain. Oh mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière, et je ferai bien reculer vos moissons. Oh les mange-terre, il y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main, je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, l'émission Les Mangeterres, tous les premiers lundis du mois. On est donc le lundi 2 octobre, on démarre avec un petit peu de retard, mais on va démarrer sûrement. En tout cas, cette émission Les Mangeterres, donc d'écologie sociale, avec une petite introduction pour se mettre un peu dans le bain de l'actualité de ce mois de septembre, avec donc bien un reporter qui, dans un article du 25 septembre, rapporte les propos du président de la République qui a déclaré « La bagnole, moi je l'adore ». C'est en effet un véritable cri du cœur. On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole et moi je l'adore, a déclaré Emmanuel Macron au journal télévisé de France 2 et de TF1 dimanche 24 septembre lors d'un entretien censé être consacré à l'écologie. Après avoir rappelé son amour de la voiture individuelle, le président de la République a fait un long plaidoyer en faveur de la reconversion électrique du secteur, vantant une écologie de progrès. Le locataire de l'Élysée a aussi annoncé une mesure de pouvoir d'achat sous forme d'une aide de 100 euros maximum par voiture et par an pour les ménages les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Ce n'était pas la première fois qu'Emmanuel Macron faisait de telles déclarations sur la voiture. « On est un pays qui aime la bagnole », avait-il déjà affirmé lors du Mondial de l'Auto en 2022. Lors du Mondial de l'Automobile en 2014, il s'était même laissé aller à la confidence. « Quand je conduisais, j'aimais plutôt accélérer et sentir le moteur, donc je suis un très mauvais élève de ce côté-là », avait-il confié. Dans son ouvrage, c'était Michel, Sylvie Rocard, donc la veuve de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, raconte aussi l'arrivée chez eux en 2008 du jeune Emmanuel Macron à bord d'une Peugeot décapotable toute neuve avec son épouse Brigitte, cheveux au vent. La voiture individuelle est aujourd'hui la première source de gaz à effet de serre en France et ses émissions de gaz à effet de serre stagnent à cause des achats de SUV, donc les gros véhicules totalement disproportionnés en poids au regard du besoin de transport des passagers, je le précise. Alors ben voilà, hein, cet article montre bien et lance finalement le sujet du en même temps, hein, on sauve la planète et en même temps on conduit et on réfléchit pas à la modération de ses usages et surtout on fonce tête baissée dans la technologie, une technologie soi-disant propre avec quand même plusieurs problèmes, hein, que l'on souligne à chaque fois, à savoir l'épuisement des ressources et des terres rares, hein, des métaux rares qui sont la composante des batteries des voitures électriques qui n'ont pas une durée de vie très très importante. Et puis également la question de l'alimentation électrique avec les pointes, les pics d'appel sur le réseau, bien sûr une solution absolument pas généralisable et qui nous est présentée comme le miracle, indépendamment de toute autre considération de sobriété. On le voit bien, c'est la technologie qui va nous sauver, le progrès qui va nous sauver. On voit bien l'idéologie dominante s'exprimer à travers ces déclarations. Alors, justement, le 25 septembre, c'était ou le 26 septembre, c'était plutôt l'heure d'une déclaration sur la planification écologique du président de la République. Et pour revenir sur ce qui s'est passé, je m'appuie sur le communiqué de presse de France Nature Environnement, publié le 26 septembre, qui nous dit donc qu'Emmanuel Macron a pris la parole lundi dernier, donc la semaine dernière, en fin de journée, afin d'annoncer les différentes mesures de la planification écologique. Si l'environnement prend de plus en plus de place dans les politiques publiques, force est de constater que le plan tel qu'il a été présenté, essentiellement centré sur la réduction de l'empreinte carbone de la France, est encore loin d'assurer une transition réussie. France Nature Environnement, à l'instar d'autres associations, a participé à la présentation du 18 septembre à Matignon de la première version de la planification écologique. Nous faisons le constat de l'avancée considérable de la place de l'environnement dans les politiques publiques. L'environnement est enfin reconnu comme sujet global et transversal au-dessus des arbitrages interministériels traditionnels. Nous sommes aussi heureux, dit France Nature Environnement, de constater que l'ampleur des enjeux, les objectifs et la réalité des efforts soient enfin partagés par l'ensemble des acteurs. Alors, je précise, soit partagé par l'ensemble des acteurs, ça veut dire la finalité, évidemment, il en est tout autrement des moyens. Je reprends la lecture du communiqué. Il s'agit là de l'apport le plus tangible du travail de la planification écologique. Cependant, le plan tel qu'il a été proposé n'est pas à la hauteur d'une transition réussie pour la France dans ses mobilités, son habitat, son alimentation, la façon de travailler et les solidarités. Il s'agit plutôt d'une première programmation présentée comme susceptible de répondre à l'objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 en décidant d'une répartition des efforts à fournir, par ailleurs très discutable. Plusieurs éléments indispensables font défaut, nous dit France Nature Environnement. Premièrement, une déclinaison territoriale encadrée par un État stratège qui donnerait des droits et des devoirs garantissant l'intérêt général. Alors, je m'arrête là sur ce commentaire. Il est clair, là, il est fait référence à un État stratège. Nous sommes sur l'antenne de Radio Libertaire. La référence à l'État, en tout cas, c'est l'approche d'une référence à une entité fédéraliste capable justement de remettre les enjeux locaux dans leur contribution à l'objectif global sur le territoire. C'est ça, finalement. Et ça, il est fait référence à un État, mais toujours est-il que, de toute façon, il est bien clair que laisser faire des territoires autonomes et non fédérés pourrait aboutir à des aberrations écologiques. Et la question de leur coordination est évidemment une question importante. Je reprends donc la lecture du communiqué sur les éléments indispensables qui font défaut selon France Nature Environnement. Deuxièmement, un budget dédié qui permettrait de financer les objectifs fixés. Seuls 7 milliards sont annoncés sur les 60 d'investissements annuels qu'impose une réelle transition écologique. Donc là, commentaire de ma part aussi, ce sont des données qui ont été chiffrées par notamment les ONG. Et on voit l'écart très important. Et troisièmement, une conditionnalité écologique des investissements publics et privés, les banques étant absentes du document, comme le rappelle France Nature Environnement. La majorité des trajectoires repose sur des fortes ruptures de pente, enfin de tendance, on va dire, dès 2024 et des hypothèses très optimistes. Le processus démocratique à partir duquel cette planification a été élaborée laisse France Nature Environnement interrogatif. La démocratie participative en matière d'environnement est pourtant inscrite dans l'article 7 de la Charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution. Or, si l'on voit bien comment les principaux acteurs industriels, économiques ou agricoles ont pesé dans l'orientation de la répartition des efforts, les grandes associations de protection de l'environnement en ont été absentes. Les mesures présentées n'ont fait l'objet d'aucune consultation des associations de protection de l'environnement, d'ailleurs qui sont citées seulement 3 fois dans le document de 78 pages, ni de procédure de démocratie participative. Sa place auprès des autres instruments devant assurer la transition écologique Donc il y a tout un tas de stratégies hein, pour l'énergie et le climat, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale biodiversité, le plan national d'adaptation au changement climatique, qui ne sont pas mentionnés dans le document, tout comme le rôle de différentes instances, donc le Conseil national de la transition écologique, le Conseil économique, social et environnemental, la Commission nationale du débat public, ou plus globalement la participation du public dans sa construction, tout cela donc n'est pas précisé. Si nous avions été consultés en amont de la présentation de cette planification écologique, nous aurions rappelé que les scénarios de l'ADEME existent et que RTE a proposé 6 scénarios de transition énergétique, dont 3 sans nouveau nucléaire. Que ces scénarios, couplés aux scénarios du GIEC, nous imposent de mettre en haut débat la société que nous voulons pour demain, dans un cadre national garantissant l'intérêt général, la protection des plus fragiles et intégrant la question de la biodiversité à la question climatique. Nous aurions interrogé certaines des réponses proposées qui restent coincées dans le logiciel de consommation et de croissance du PIB, du techno-solutionnisme et d'une promesse implicite illusoire que rien ne changera. Nous aurions pu proposer d'autres allocations des efforts entre acteurs et davantage défendre la justice sociale et les plus fragiles, premières victimes des impacts du climat et des pollutions, tout en étant les moins contributeurs et en ayant les moyens d'agir. Nous aurions pu peser pour davantage de sobriété, très peu présente dans le document, rappeler que la programmation énergétique en cours ne permet pas que le président décide seul de la relance du nucléaire sans débat public, ce qui a pourtant été fait. Hein. Nous aurions pu renforcer la restauration de la biodiversité et la protection des ressources en eau dans le nouveau plan eau qui n'a fait que réduire les objectifs de réduction de consommation antérieure, les faisant passer de moins 25 à seulement moins 10%. Nous aurions pu plaider pour une transformation du modèle agricole et alimentaire et rappeler que la baisse des pesticides est un engagement ancien, lourdement financé et jamais tenu. Nous aurions rappelé les enjeux de santé et environnement quasi constamment balayés sous le tapis. Nous aurions questionné la gouvernance et le pilotage de cette planification s'il s'avère nécessaire de réajuster les trajectoires en continu, s'il devenait nécessaire de contraindre ceux qui ne participeraient pas à l'effort national. Donc on voit quand même énormément de points assez cruciaux, même totalement cruciaux, et on voit cette structuration vraiment verticale d'un autre temps, hein, avec bien des partenaires qui ne sont là que pour la Libye, et on le voit bien qu'ils sont pour ce qui est de la société civile très peu cités, évidemment, à contrario des grands groupes industriels. Je finis la lecture de ce communiqué, mais qui nous dit bien finalement dans quelle situation on se trouve par rapport à ces enjeux. La démocratie participative est vue par l'exécutif comme un espace informel de dialogue d'interlocuteurs choisis, sans travail sérieux sur les dissensus, ni co-construction réelle, ni redevabilité particulière, et mettant sur un même niveau des fédérations nationales comme France Nature Environnement, avec des think tanks pas toujours indépendants, et même des lobbies. C'est très loin de notre vision d'une démocratie participative vivante et équilibrée. Cette approche verticale, pour des décisions aussi cruciales, risque de provoquer des difficultés d'acceptation de la transition, d'où la nécessité de renforcer les processus existants de démocratie participative au niveau national comme dans les territoires. France Nature Environnement et l'ensemble de ses associations fédérées seront là pour y contribuer et porter ces sujets sur lesquels nous sommes investis depuis longtemps. Pour Antoine Gattet, président de France Nature Environnement, on nous présente une planification écologique, mais il s'agit en fait d'une programmation carbone nécessaire certes, mais loin d'être suffisante. Il faudra aller bien au-delà de réponses productivistes qui oublient d'intégrer les sujets bilan matériaux, biodiversité, pollution ou santé pour pouvoir répondre à la crise écologique. Et cette réponse, pour être efficace, devra être construite collectivement. On peut évidemment souscrire à ces propos tout à fait sur cette antenne, sur la construction collective. Après, sur la notion de démocratie participative, là, évidemment, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire à la radio, puisque, bien évidemment, il s'agit d'un projet, en tout cas pour ce qui concerne le mouvement libertaire, d'un projet de fédéralisme et d'autogestion, donc c'est-à-dire bien des entités qui se respectent et qui décident parce qu'elles sont légitimes à le faire, c'est-à-dire pas par le pouvoir de l'argent ou par le pouvoir des capitaux, mais bien par le pouvoir de ceux qui contribuent à la création de richesses au sens noble du terme, bien sûr, au service des besoins de la population. Donc voilà, on a quelques divergences sur la démocratie participative qui est aujourd'hui un alibi dans le cadre électoraliste. Mais en tout cas, sur cette notion de construction collective, on peut rejoindre tout à fait les propos de France Nature Environnement. Voilà, et bien on va s'accorder une pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit. Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise. Et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Raser des forêts entières, en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une rente pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Tu en le sais, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays. D'espèces animales et le fruit de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non.
C'était le groupe Assassin Sauvons la Terre sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Vous êtes à l'écoute des Mangeux de Terre. l'émission d'écologie sociale, voilà, sur la plus rebelle des radios, comme l'on dit. Et nous allons reprendre le cours de l'émission autour d'une revue d'actualité, alors sur le sujet, deux sujets connexes, hein, la problématique de l'eau et la problématique de l'agriculture. Alors, sur les informations liées à l'eau, alors on en avait déjà parlé, hein. Mais je souhaitais revenir sur bien cette question de la baignade en Seine avec Marc Lémé donc, et son blog Les eaux glacées du calcul égoïste selon la formule de Marx. Eh bien, donc ces baignades en Seine, de la tragicomédie à l'opéra bouffe, nous dit Marc Lémé dans un article du 6 septembre. Depuis que l'imposture a éclaté au grand jour, l'impéritie des communicants rameutés à grands sons de trompe donne chaque jour ou presque matière à se réjouir. D'abord, on a eu la vanne, à moins que ça ne soit le clapet, qui se serait mystérieusement tombé en panne. Donc ça, c'est, il fait référence à l'explication de cette pollution qu'a connue la Seine. Mais vanne de quoi, située où ? Personne ne se pose la question et les médias d'avaler tout cru cette nouvelle colossale menterie de nos suspects habituels, ce doit être la force de l'habitude. Et effectivement, eh bien le, enfin comme le rapporte le journal La Croix, enfin, Marc Lémé renvoie vers un article de La Croix, eh bien en disant que ce journal et d'ailleurs aucun autre média n'a raconté. A oublié de raconter en tout cas que, avant de se résigner à suspendre les baignades d'essai, et cela pour la seconde fois en un mois, hein, ça s'est passé au mois d'août, les autorités sportives ont tenté de convaincre les athlètes d'avaler des tonnes de chlore avant de plonger. Les 10 athlètes les ont bien évidemment envoyés se faire foutre, selon la formule de Marc Lémé. Et ça promet, nous dit-il, dans la perspective donc des Jeux Olympiques. Le bobo, ce n'est pourtant pas le lecteur de base du Parisien qui, faussement naïf, fait semblant de s'interroger. Paris, de point, la baignade grande absente de l'été au canal Saint-Martin. Donc ça fait référence à un article du Parisien. Après, c'est le nouveau Val-de-Marne. Bref, la droite qui a fini par faire tomber le dernier grand bastion du PCF, donc c'est le département du Val-de-Marne, hein, qui annonce benoîtement qu'il va commencer à investir 48 millions d'euros pour, ouvrez les guillemets, pouvoir se baigner dans la Seine. Donc c'est clair, hein, le Val-de-Marne, c'est la partie amont évidemment de la Seine, donc il y a un enjeu fort de traitement des eaux. Sauf que Marc Lémé nous rappelle que ça fait jamais 10 ans qu'on en parle et nous voilà donc sauvés. Hein. Il pointe par là évidemment le retard pris par ces investissements nécessaires. Et en particulier sur le sujet du mélange des conduites d'eau pluviale d'un côté, hein, des canalisations d'eau pluviale, et de l'autre côté des eaux usées. Voilà, il convient de les séparer, et historiquement, il y a encore beaucoup de conduites communes eau pluviale, eau usée. Et la série noire n'en finit décidément pas, nous dit Marc Lémé, puisque sur la Seine, on a même eu un accident de péniche qui interroge. Et en effet, deux articles récents, hein, évoquent les problèmes de navigation sur la Seine. Donc là, c'est pareil, hein, si on envisage la baignabilité, bah, effectivement, il faut se dire est-ce que cette nage est compatible avec l'usage fluvial qui est fait actuellement avec ces problématiques d'accident de péniche. Et pour conclure en beauté, provisoirement, il nous dit-il, une certaine Madame Claire, genre la doyenne des journalistes françaises, nous révèle dans Le Point, eh bien, il cite juste les titres, hein, le plan secret d'Hidalgo pour se faire réélire, la mairie de Paris parie sur les Jeux Olympiques pour faire oublier les travaux dans Paris et la hausse de la taxe foncière. Voilà un objectif à suivre donc tout ça, et je ne peux que sur le sujet vous renvoyer vers un article très complet de Marc Lémé justement qui se trouve sur le blog du Monde Diplomatique, dont je vais juste vous lire l'encart de présentation. Donc le titre de l'article, c'est Baignade en Seine et JO 2024, chronique d'un désastre annoncé. Plusieurs semaines de pluie en région parisienne en juillet 2023, à un an des JO, n'ont fait éclater au grand jour l'imposture portée depuis 10 ans à bout de bras par tous les pouvoirs publics concernés, de la mairie de Paris jusqu'à l'Élysée. Par temps de pluie et même par temps sec, La pollution de la Seine et les risques sanitaires y afférents, grave menace pour la santé publique, ne permet pas de s'y baigner comme l'avait décidé un arrêté préfectoral de 1923, on a bien dit, hein, toujours en vigueur. Mais les dérives du sport business, l'aveuglement volontaire de politiques en quête d'une popularité factice ont ouvert la voie à un mensonge collectif auquel se sont ralliés toutes celles et ceux qui entendaient en tirer profit. Voilà, donc si vous voulez bien réinscrire cette problématique dans une histoire beaucoup plus, voilà, beaucoup plus ample, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, et je vous renvoie donc vers cet article de Marc Lémé sur le blog du Monde diplomatique. Alors, avec également sur cette question de l'eau, une bonne nouvelle, en tout cas qui montre bien, qui illustre bien les problématiques actuelles. Vraiment, c'est ahurissant. Marc Lémé, donc, le 10 septembre, sur son blog, rapporte que le Conseil d'État condamne l'État, donc le Conseil d'État condamne l'État, à fournir les statistiques des prélèvements d'eau des irrigants à une association de défense de l'environnement. Donc ça, c'est dans le dossier Bassine, hein, qui irrigue décidément l'actualité, comme le dit Marc Lémé avec humour. Avec le procès foutraque de Sainte-Soline, tellement mal fichu que le tribunal de Poitiers a dû le reporter au 28 novembre, voici un nouvel épisode haut en couleur. Nature Environnement 17, donc 17 c'est Charente-Maritime si je ne me trompe pas, avait saisi la justice administrative aux fins d'obtenir communication du chiffrage des prélèvements effectués par les irrigants. Déboutée en première instance, l'association vient de gagner devant le Conseil d'État qui condamne donc le dit État à fournir ses chiffres avec une astreinte de 50 euros par jour de retard. Comme les dix services de l'État, aussi complices forcés sous le poids de leur hiérarchie vendue au grand capital productiviste, donc autant forcés que délabrés, sont dans l'incapacité de s'exécuter, voilà de nouveaux arguments pour la défense des inculpés de Sainte-Soline le 28 novembre prochain. On voit hein, cette absurdité où, encore une fois, une question pour le débat public hein, qui consiste à savoir finalement la répartition des usages de l'eau aux fins d'irrigation avec une confiscation, comme on le voit avec le débat sur ces bassines, la construction de ces bassines. Ne se fait pas dans la transparence et il faut qu'une association aille jusqu'au Conseil d'État pour obtenir le minimum du minimum d'un service public, à savoir des éléments statistiques, hein, tout simplement, montrant les prélèvements et les consommations. Allez, donc quand on parle d'eau, on parle souvent malheureusement de pollution et donc de pratiques agricoles. Ce qui m'amène à ouvrir la page agriculture avec un communiqué de la Confédération paysanne qui rappelle fort justement que la solution n'est pas dans la tech. Alors la tech, c'est vous savez, c'est ces communicants qui invente des termes pour faire moderne, alors c'est par exemple souvent des termes anglo-saxons, ou alors qui ont un haut niveau de créativité, hein, en imposant le mot France devant travail, le mot travail par exemple pour Pôle emploi, hein, devient France Travail. Quelle formidable inventivité. Alors, on ne sait pas si la République française s'appellera bientôt France Démocratie, mais en tout cas, ça semble bien parti pour. Donc là, le terme en question, c'est le terme de la tech. Et donc, la Confédération paysanne, le 20 septembre dernier, a fait un communiqué nous disant que la solution n'est pas dans la technologie française, mais dans un réel soutien aux paysans. Alors qu'une crise sans précédent touche toutes les productions en agriculture biologique, le ministre de l'Agriculture s'est rendu au salon Tech et Bio qui était organisé à Bourg-les-Valences dans la Drôme les 20 et 21 septembre. Le petit refrain de la bio trop chère pour les Français, accompagné des couplets sur l'aide alimentaire et le panier inflation, sont des attaques frontales aux pratiques agricoles qui protègent l'eau, les sols et l'alimentation. Cela ne dérange visiblement pas le gouvernement de faire payer les externalités négatives de l'agro-industrie aux citoyens. Donc, externalité négative, hein, c'est pour le redire autrement, c'est bien lorsque une activité économique produit des dégâts. Allez, je prends un exemple. Les dégâts faits par un essieu de poids lourd sur une chaussée est 1000 fois plus important que celui d'une voiture. Je donne ces chiffres de mémoire. Pour autant, le montant du péage n'est pas 1000 fois supérieur pour un poids lourd. Donc il y a bien finalement une externalité, c'est-à-dire des coûts induits qui sont pris en charge finalement par la collectivité. Donc c'est ça, hein, quand on parle d'externalité négative. Et donc là, pour ce qui concerne l'agriculture, eh bien évidemment, c'est toutes les problématiques de traitement de l'eau suite à leur pollution. Entre autres, hein. Voilà, donc je reprends l'article. Par exemple, nous dit la Confédération paysanne, le coût de dépollution de l'eau lié à l'agriculture conventionnelle s'élève à plusieurs milliards d'euros par an. Plus que jamais, s'affranchir des pesticides de synthèse avec un accompagnement des politiques publiques est une nécessité. Des politiques publiques structurelles qui permettent aux paysans de travailler en agriculture biologique, de tirer un revenu de leur activité en offrant une alimentation de qualité pour toutes et tous. Et donc, un impératif, nous ne pouvons plus faire l'impasse sur un soutien massif à l'agriculture biologique. Au lieu de cela, le gouvernement a choisi d'abandonner les aides au maintien en bio dans la politique agricole commune, de laisser se dégrader les marchés issus de cette agriculture et d'assurer la pérennité de l'agro-industrie dans un contexte inflationniste dommageable pour l'ensemble de la société. Cette décision pèse et pèsera encore. On assiste déjà à des arrêts de certification, à la cessation de nombreuses entreprises et, in fine, au retour des pesticides dans des zones qui pourtant avaient réussi leur transition. Dans ce contexte, la Confédération paysanne demande que l'agriculture biologique soit reconnue pour ses externalités positives, c'est-à-dire eh bien, qu'elle permette le maintien de la biodiversité, qu'elle est évidemment favorable au bien-être animal, elle préserve la qualité des cours d'eau et également la santé. Et pour cela, la Confédération paysanne défend l'agriculture biopaysanne, bien sûr, une aide conjoncturelle de 15 000 euros par ferme, le retour d'une aide européenne aux producteurs déjà engagés en bio telle qu'elle existait avant 2017 et qui existe encore dans de nombreux pays, hein, la France l'a supprimée, et bien ça pose un gros problème, hein, dans cette période de difficulté économique. La Confédération paysanne demande aussi l'application immédiate de la loi Egalim et des 20% de produits bio en restauration collective. Là, c'est pareil, hein, on fait toujours beaucoup de mousse lorsqu'on annonce des nouvelles mesures et on oublie évidemment de dire lorsqu'elles ne sont pas atteintes, alors qu'on devrait en faire la même publicité et surtout analyser l'arbre des causes, c'est-à-dire bien savoir quels sont les maillons qui ont empêché finalement d'atteindre cet objectif de façon bien, à pouvoir résoudre les problèmes et aussi à pouvoir partir d'un constat réel et non pas enfumer le public et cacher la mauvaise volonté des grands acteurs économiques. La Confédération paysanne défend également la transparence des marges et la suppression des surmarges sur les opérateurs de toute la filière. Et enfin, des politiques publiques structurelles pour réguler le marché et la transparence sur des indicateurs de la bio. Elle demande aussi à la France de s'opposer fermement à la proposition de règlement de la Commission européenne visant à déréguler les nouveaux OGM. C'est la seule façon d'avoir l'assurance de pouvoir continuer à exercer en agriculture bio-paysanne. Non, monsieur le ministre, la technologie française, n'est pas la solution. Au contraire, elle endette et crée de nouvelles dépendances, ce qui justement fait disparaître les paysans. Voilà. Et donc, un autre article aussi de la Confédération paysanne sur le travail saisonnier et des événements tragiques qui sont intervenus en lien avec les problématiques d'ailleurs de canicule, hein. La Confédération paysanne nous dit « Pour éviter les drames, l'État doit mettre en place un plan de vigilance et d'amélioration des conditions de travail. » En effet, les vendanges sont terminées dans la majorité des vignobles français et avec elles, une fois encore, un lot de faits tragiques, comme par exemple les 6 décès de vendangeurs qui ont eu lieu entre le 5 et le 8 septembre, de conditions de logement et de traitement inhumaines, de témoignages révoltants. Des personnes sont mortes dans les vignes et au retour à leur hébergement. Évoquer un manque de suivi des conseils en cas de forte chaleur ne saurait dédouaner les employeurs de ces yonniers de leur propre responsabilité. Un hébergement collectif insalubre pour des dizaines de vendangeurs sans contrat a été fermé par arrêté préfectoral dans la Marne. Ailleurs, une équipe de travailleurs payés à la tâche s'insurge contre leur mise à pied pour avoir contesté leurs conditions de travail et de rémunération. Ces faits rappellent à quel point les ouvriers agricoles saisonniers restent vulnérables et trop souvent sujets d'exploitation au travail. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit de personnes étrangères et employées par des sociétés de prestations de services internationales. Rien ne justifie que la vie de ces personnes soit mise en danger ni que leurs droits fondamentaux soient ainsi piétinés. Nous rappelons que le respect des travailleurs de la terre, quel que soit leur statut et leur origine, est supérieur à toute considération économique. Il est de la responsabilité de l'État de s'emparer réellement des problèmes liés au travail saisonnier. La Confédération paysanne exige qu'un plan de vigilance et d'amélioration des conditions de travail et de rémunération soit mis en place, notamment en renforçant et en garantissant, premièrement, l'inscription dans le Code du travail d'une définition spécifique du travail saisonnier en agriculture, deuxièmement, des conditions de logement dignes, sécurité, intimité, accès à l'eau et à l'électricité et douche. Troisièmement, des conditions de travail humaines, particulièrement en épisode de canicule, arrêt du travail aux heures les plus chaudes, accès à l'eau et à l'ombre. Quatrièmement, des conditions de rémunération améliorées, répercussion du coût de la vie et des transports et réexamen sérieux de la rémunération à la tâche. Et cinquièmement, le contrôle des sociétés de prestation de services internationales. Alors sur cette liste, évidemment, ça fait penser aussi à bien d'autres métiers. Moi, je pense en particulier au bâtiment, avec la notion de disposer d'une base vie digne de ce nom pour les problématiques d'hygiène et sécurité. Et puis globalement, on voit évidemment l'aspect aussi hypocrite, hein, finalement, de ces recrutements de travailleurs étrangers. Tout en tenant un discours selon lequel les emplois sont pas pourvus en France, évidemment. Et il est clair que sur les emplois les plus dangereux, les moins bien payés, les plus difficiles, la pression économique qui peut s'exercer sur les populations étrangères eh bien, est beaucoup plus forte, évidemment, que dans le cadre bien d'une protection sociale digne de ce nom. Qui préserve encore, mais pour combien de temps, l'obligation de prendre des boulots complètement inacceptables, payer des miettes. Hein. Alors on le voit, il y a des tentatives avec le RSA notamment d'exiger des activités et d'obliger finalement et de conditionner le versement du RSA à un minimum d'activité. Voilà, toujours dans l'idée évidemment de tirer vers le bas le monde du travail en montrant que bien il faut pas trop revendiquer parce que il y a des populations moins favorisées et donc c'est l'alignement par le bas bien sûr. Pour finir bien ce communiqué, alors que la conditionnalité sociale des aides a été introduite cette année dans le règlement de la politique agricole commune, la Confédération paysanne demande que tout soutien et toute reconnaissance, signe de qualité, soit également conditionné au respect des droits des personnes et du travail. Donc effectivement, là, bien, on pose la question du respect des contraintes sociales. Hein, un peu trop souvent, dans certains milieux de consommateurs favorisés, on va le dire comme ça, on s'attache beaucoup à la qualité intrinsèque du produit, hein, c'est-à-dire sa qualité nutritionnelle, par exemple, sa haute valeur environnementale, sans se préoccuper des conditions sociales de leur production. Hein. C'est d'ailleurs, si je fais un parallèle, un petit peu le débat sur les gadgets électroniques hein, que l'on multiplie, que l'on utilise de façon jetable, et avec ce paradoxe où on s'interroge pas tellement de savoir les conditions de vie des mineurs, chargée d'extraire les matériaux, et lorsque une mine s'ouvre sur le territoire métropolitain, par exemple, bien on fait des revendications pour dire c'est pas possible pour des causes environnementales, alors que la vraie question, bien sûr, c'est celle de s'interroger sur le besoin. Il est clair que si on ne limite pas drastiquement le besoin, si on ne va pas dans un sens complètement contraire à celui de la publicité qui banalise l'acte de consommation, et si donc on se dit que bien tous nos gadgets sont coûteux et doivent être utilisés de façon extrêmement raisonnable, et bien si on ne tient pas ce discours cohérent, on est finalement dans la posture de se dire on est d'accord pour aller polluer les autres par notre consommation qu'on ne remet pas en cause, et puis mon voisin le fait, donc moi je vais pas m'en priver. Et je pense qu'il y a aussi une question morale, éthique, bien sûr, on ne doit pas se baser sur les turpitudes des autres pour justifier les siennes. Et justement, c'est un combat à mener, une droiture à avoir, hein, voilà, des convictions. Et ça, c'est aussi, ça fait partie aussi du travail lorsqu'on parle d'écologie et d'enjeux environnementaux. Sur l'agriculture, un dernier article, et puis on s'accordera une pause musicale, tiré de reporter donc du 9 septembre avec les Restos du Cœur, pour lesquels le constat est fait que l'aide alimentaire est à bout de souffle. En effet, face à l'inflation, plutôt que de repenser le système alimentaire dans son ensemble, l'État va chercher de l'argent à droite à gauche pour faire pansement, dénonce la sociologue Pauline Scherrer. Mais d'autres initiatives émergent. Alors Pauline Scherrer est sociologue intervenante et spécialiste de la lutte contre la précarité alimentaire et des enjeux d'accès à une alimentation durable. Cofondatrice de l'association VRAC et Cocina à Montpellier, excusez-moi, elle y coordonne et anime les activités de recherche et d'expérimentation. Les Restos du Cœur et la Croix-Rouge sont en grande difficulté face à l'explosion de la demande d'aide alimentaire. Dans son baromètre de la pauvreté publié le 6 septembre, le Secours Populaire note que 32% des Français peinent à se procurer une alimentation saine leur permettant de faire 3 repas par jour. Alors c'est une interview, hein, donc le reporter demande à Pauline Scherrer « Qu'est-ce que cela vous inspire ?» Elle répond « Je m'intéresse depuis plusieurs années à cette problématique de la précarité alimentaire et des dispositifs d'aide alimentaire. Nous sommes plusieurs à avoir observé que ce système n'était pas durable, que ce soit dans le temps, dans son mode d'organisation ou ses résultats. Ce qui se passe aujourd'hui est la preuve que ce système ne tient pas, l'aide alimentaire est totalement imbriquée avec le système alimentaire industriel. Ce dernier s'est mondialisé et est devenu très capitaliste, très inégalitaire et a un fort impact environnemental. Ainsi, non seulement l'organisation de l'aide alimentaire n'est pas durable, mais de nos jours, elle n'arrive plus à répondre aux besoins. Ce système est à bout de souffle et il est nécessaire d'inventer autre chose. D'un côté, de plus en plus de personnes n'arrivent pas à se nourrir, sachant que la précarité alimentaire englobe le nombre de repas par jour, mais aussi la qualité et la diversité des produits auxquels on peut avoir accès. De l'autre, l'État, main dans la main avec le système économique, essaye de sauver en urgence une association caritative qui fait ce qu'elle peut face à l'accroissement des problèmes. Plutôt que de repenser le système alimentaire dans son ensemble, on va chercher de l'argent à droite à gauche pour faire pansement. Alors oui, je me permets un commentaire. En fait, on est effectivement dans une logique, mais on le verra dans la suite de l'article, de charité finalement, c'est-à-dire bien on va chercher l'aumône des surplus alimentaires voilà des dons. Alors ça part évidemment d'une idée très généreuse, la solidarité. Mais et on le verra avec ce projet de sécurité sociale alimentaire évoqué en fin d'article, on n'est pas dans une prise en charge autogérée des problématiques, hein, toute solution, de mon point de vue, ne peut passer que par là, c'est-à-dire par l'appropriation des consommateurs de ces questions à travers un investissement dans la chaîne de production, de distribution, ce que propose d'ailleurs cette notion de sécurité sociale alimentaire. Je reprends le cours de l'article avec la question posée par reporter: à quoi est due l'explosion de la précarité alimentaire? Pauline Scherrer répond: il y a eu le Covid ainsi que la cause de la hausse de l'inflation des produits alimentaires, mais c'est avant tout notre système économique qui creuse les inégalités. Les salaires n'augmentent pas suffisamment, les écarts de revenus se sont accrus et des personnes qui travaillent ne peuvent pas payer leurs charges, dont l'alimentation. Quand on touche les minima sociaux ou un petit salaire, l'alimentation est en effet une des variables d'ajustement dans un budget, avec des effets et des coûts importants sur la santé et le bien-être. Tout cela devrait nous enjoindre à réfléchir au problème de façon globale. Que veut dire se nourrir? De quelle alimentation parle-t-on? Quelle est la vie des paysans à l'autre bout de la chaîne? Bref, il est important d'appréhender ces enjeux de façon systémique, plutôt que de se pencher seulement sur une partie du problème. Je fais un petit encart aussi. On a lu qu'une ministre a proposé d'apprendre dans les écoles à cuisiner pour limiter les coûts d'acquisition des produits transformés. Voilà, on voit qu'on se raccroche à ce qu'on peut. En tout cas, il est clair que cette réflexion-là est accordée en fait dans un budget une importance à la consommation de nourriture, à la qualité de cette nourriture, quitte à le faire au détriment d'autres besoins. On citait tout à l'heure tous les gadgets électroniques. Ça doit être une réflexion qui doit être menée, mais bien sûr, elle ne peut se mener sereinement qu'en dehors, que lorsqu'on touche plus que les minima sociaux, qui sont vraiment complètement... qui ne permettent pas de vivre décemment, on le sait très bien. Fin de l'interview. Quelle piste identifiez-vous pour lutter contre la précarité alimentaire de façon structurelle? Réponse de Pauline Scherrer: il y a la proposition du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation auquel nous participons, qui propose de faire de l'alimentation un droit universel pour tous. L'idée de la sécurité sociale de l'alimentation est d'ajouter une branche au régime général de la sécurité sociale de façon à garantir à chacun un budget alimentaire tous les mois. La proposition initiale était de 150 euros par mois et par personne, avec un budget alimentaire dépensé dans un circuit de distribution ou dans des produits conventionnés, c'est-à-dire choisis de manière démocratique. Ce qui implique au préalable de faire de l'alimentation un vrai sujet de démocratie. C'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle avec la Caisse alimentaire commune à Montpellier. Nous avons été étonnés de l'écho autour de cette expérimentation. Il y a un enjeu à pousser cette idée-là. Il s'agit d'une vraie voie de réflexion collective qui peut embarquer le monde paysan, les habitants, notamment des quartiers populaires, les militants, les élus. Bref, il s'agirait de fédérer tout ce monde-là autour d'un sujet qui devient crucial. Nous avons une transition alimentaire et écologique à faire. Il faut qu'elle soit juste. Nous avons besoin d'un sursaut ou plutôt d'une dynamique démocratique. Oui, sur cette construction, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans les AMAP ou dans les systèmes d'échange locaux, les SEL, c'est-à-dire arriver à créer un circuit totalement maîtrisé avec des exigences qualitatives des produits consommés et de leur provenance aussi, en favorisant une agriculture paysanne. Et que ces budgets soient consacrés à cette alimentation, permettant aussi de développer, bien sûr, et d'assurer l'assise financière nécessaire pour tous les producteurs et tous les paysans. Voilà, c'est d'arriver à ce système vertueux, et c'est une idée vraiment à pousser. Il faudra d'ailleurs que dans une prochaine émission, on se fasse un écho un peu plus large de ces principes. Alors, bien, on va pouvoir peut-être s'accorder enfin une pause musicale bien méritée. Et nous allons le faire avec Léo Ferré. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi soir.
sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Même qu'on grappille dans le champ voisin, nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux. Dans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne alors. »
C'était l'âge d'or par Léo Ferré. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Nous reprenons le cours de l'émission Les Mangeux de Terre avec une page climat, effet de serre, énergie. Alors, sur le contexte, on ne sera pas tout à fait surpris, mais enfin, il est important de le rappeler avec reporter que la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi petite en cette fin d'hiver dans l'hémisphère sud, puisque selon les données publiées le 26 septembre par un organisme international, National Snow and Ice Data Center, NSIDC, la surface de cette mer de glace atteint 17 millions de kilomètres carrés, soit la superficie la plus réduite jamais enregistrée depuis le début des mesures en 79. Jusqu'en 2016, la banquise était pourtant stable avant de se rétracter brutalement. L'étendue de la banquise de l'Antarctique a pris un virage brutal à la baisse pendant presque tous les mois de l'année, souligne le NSIDC. Selon l'observatoire américain, le coupable est le réchauffement de la couche supérieure de l'océan. Il existe une inquiétude selon laquelle il pourrait s'agir du début d'une tendance à long terme de déclin de la banquise antarctique, sachant que les océans se réchauffent à l'échelle mondiale, indique l'observatoire américain. Les conséquences de cette fonte spectaculaire sont importantes, car cela va laisser une plus grande partie du littoral de l'Antarctique exposée aux vagues océaniques et au climat marin. Cela pourrait conduire à une augmentation de la température de l'eau de mer, signale le National Snow and Ice Data Center, NSIDC. Toujours sur le sujet, avec Novetic, dans un article du 28 septembre, face au risque climatique, et ça m'a semblé intéressant de le dire, hein, c'est la question des assurances, puisque 39 millions d'habitations aux États-Unis sont menacées de perdre leur assurance face au risque climatique, des millions d'Américains ne trouvent déjà plus d'assureurs privés. En cause, des coûts devenus exorbitants et l'abandon par les assureurs de certaines zones. Or, selon un rapport de la First Street Foundation, cette situation pourrait s'aggraver. 39 millions d'habitations, soit près d'un quart du pays, ne payent pas encore le coût des risques actuels. Incendie meurtrier sur l'île d'Hawaï, inondations dévastatrices en Californie, ouragan Ian en Floride. Les catastrophes climatiques prennent de l'ampleur aux États-Unis sous l'effet du changement climatique. Les coûts de reconstruction annuels ont triplé ces 5 dernières années par rapport aux 42 précédentes, selon un organisme national, une agence gouvernementale. Les assureurs abandonnent certains lieux ou font grimper les primes d'assurance à des montants que les particuliers ne peuvent plus suivre. Le phénomène pourrait s'aggraver selon un rapport intitulé 9e évaluation nationale des risques, la bulle de l'assurance climatique, publié le 20 septembre par First Street Foundation, un institut de recherche à but non lucratif qui utilise des modèles scientifiques validés par les pairs. Celui-ci a calculé que le prix des assurances pour 39 millions de propriétés autour d'un quart de l'ensemble du pays ne reflète pas encore l'augmentation actuelle des catastrophes climatiques telles que les inondations, les tempêtes et les incendies. Les États les plus concernés sont la Californie, la Floride et la Louisiane. 24 millions d'habitations présentent un risque majeur de tempête destructrice. 12 sont à risque d'inondation pour la plupart sous les radars du gouvernement et 4,4 millions sont situés dans des zones où les risques d'incendie sont particulièrement élevés. First Street Foundation souligne le coût majeur des feux passé de 1 milliard de dollars en 2016 à 17 en 2021. L'Institut a rendu disponible une carte des risques sur un site internet Risk Factor. Certains endroits seront très peu impactés, mais d'autres pourraient voir des augmentations massives des primes d'assurance, a précisé Jérémy Porter, qui est responsable des impacts climatiques chez First Street Foundation, à l'agence Associated Press. Un constat alarmant alors que les coûts ont déjà explosé dans certains lieux. Jen Goodlin, ancienne dentiste aujourd'hui directrice de l'association Rebuild Paradise, dédiée à la construction du comté de Butte, qui a été dévastée par des feux en 2018, en subit les conséquences. Elle a témoigné auprès de l'agence Associated Press que sa facture d'assurance annuelle est passée de 2 500 $ à 11 245 $ entre 2022 et 2023. Notre agent d'assurance nous a dit de nous estimer heureux qu'il ne nous ait pas laissé tomber. J'ai répondu qu'ils m'ont déjà laissé tomber, confie-t-elle. Jen Goodlin a entamé des procédures pour passer au plan d'assurance FAIR qui est proposé par l'État. Celui-ci est destiné à ceux qui voient leurs assureurs se désinvestir ou demander des primes trop élevées. En Floride, ces polices d'assurance citoyenne, aussi appelées assurances de dernier ressort, sont le premier assureur. Elles ont augmenté de 168%, passant de 500 000 à 1,3 million d'assurés, selon la First Street Foundation. La dépendance excessive des propriétaires à l'égard des assureurs de dernier ressort gérés par l'État est un signe évident que les pratiques standards du marché de l'assurance ne peuvent pas suivre la réalité climatique actuelle, a déclaré Matthew Ebay, fondateur de First Street Foundation. Nous nous dirigeons rapidement vers un point où le coût de l'assurance rendra les maisons les plus à risque effectivement non assurables. Actuellement dans le pays, près de 7 millions d'habitations sont déjà refusées par les assureurs. En Californie, l'assureur State Farm, le plus important assureur de biens de l'État, a suspendu les nouveaux contrats. L'assureur Allstate fait de même. D'autres pays du monde voient reculer l'accès aux assurances. En Australie, un foyer sur 25 pourrait devenir inassurable d'ici 2030. En France, des collectivités font déjà face au refus de certains assureurs. Le risque que l'on n'ait pas d'assurance aujourd'hui est sans doute plus fort que notre capacité hier de négociation, a assuré à l'AFP Samuel Miese, directeur général des services de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà un article paru sur Novetic, un article de Fanny Brunval qui illustre bien la situation finalement par l'assurance. On voit le risque augmenter très fortement en lien avec le réchauffement climatique, bien sûr. Alors sur le sujet transport, je ne vais pas reprendre cette information de taxi volant totalement ahurissante qui aurait été mise en place pour les JO mais qui a été abandonnée. Je vais évoquer plutôt avec Reporter dans un article du 27 septembre les particules fines pour dire que la France bloque une mesure anti-pollution en Europe. C'est bien la réalité aujourd'hui. Alors, l'article commence par la phrase « Il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour », alors qu'Emmanuel Macron déclarait dimanche au JT télévisé « Adorer la bagnole », on l'a dit en début de l'émission. Le gouvernement français a fait pression pour empêcher l'Union européenne d'abaisser les normes de pollution des voitures, sûrement une illustration de l'écologie à la française vantée par le président de la République. Au Conseil de l'Europe, la France a ferraillé aux côtés de l'Italie et a eu gain de cause face à l'Allemagne. La position de Paris et de Rome était également partagée par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie. Elle a permis de stopper un nouveau durcissement des normes de pollution sur les gaz d'échappement des voitures particulières. À l'origine, la Commission européenne entendait réduire significativement les émissions d'oxyde d'azote, NOx, et de particules fines des véhicules, alors que la pollution de l'air est responsable de 70 000 décès estimés chaque année dans l'Union européenne et que 98% des habitants des villes sont exposés à trop de particules fines. Pour contrer cette proposition, la France a invoqué la compétitivité de l'industrie automobile, ses 14 millions d'emplois dans l'Union européenne et le besoin de financement pour les investissements des voitures électriques. Les normes sont finalement restées inchangées, ce qui a réjoui le lobby automobile. L'ONG Transport et Environment, citée par Le Figaro, a quant à elle parlé d'un désastre pour la qualité de l'air et d'une disposition qui fait passer les profits records des constructeurs automobiles avant la santé des citoyens. Et voilà, le gouvernement est démasqué. Enfin, on se doutait bien qu'il n'était pas très sincère dans son engagement écologique. Je pense que ça se voit assez largement. Alors sur l'énergie, avec Reporter, 26 septembre, toujours revient en un focus de l'allocution présidentielle sur le sujet, sur les pompes à chaleur, puisque ça a été vanté par le président de la République, et ces pompes à chaleur permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est qu'elles sont inefficaces dans les logements mal isolés. Alors l'objectif, c'est de produire 1 million de pompes à chaleur en France d'ici 2027, soit multiplié par 3 la production actuelle. C'est ce qui a été annoncé le 25 septembre, avec la formation donc de 30 000 installateurs. Pour réchauffer l'atmosphère, les pompes à chaleur puisent des calories dans l'eau, l'air ou le sol et la restituent à l'intérieur des bâtiments. Selon le bilan prévisionnel 2035 de RTE, donc le distributeur d'électricité, de l'énergie, leur déploiement permettrait de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, mais accroîtrait légèrement la consommation électrique, en particulier aux heures de pointe, donc celle qui est la plus difficile à gérer. Et qui oblige, hein, je vous précise encore, à des importations, dans certains cas, d'électricité depuis l'Allemagne. Je ferme la parenthèse. Cet équipement donc de pompe à chaleur suscite un intérêt grandissant. 170 000 dispositifs de type RO ont été posés en 2020, 253 000 en 2021. Les ventes ont bondi de 30% pour atteindre 350 000 en 2022. Cette année-là, 2,6 millions de logements sur 30 étaient déjà équipés de pompes à chaleur. Reste que ces pompes à chaleur, de leur petit nom, ne sont pas toujours la panacée en matière de chauffage. Plus le climat est froid, plus la pompe à chaleur peine à trouver des calories dans l'air extérieur et moins elle est puissante. Elle est également inefficace dans un logement mal isolé, selon un rapport de l'association Negawatt cité par France TV Info. Il est regrettable de constater qu'une fois de plus, la majeure partie des ressources est dirigée vers l'amélioration du système de chauffage en négligeant l'importance de l'isolation et de la ventilation, abonde dans un communiqué Baudouin de la Varande, cofondateur de la start-up Itac spécialisée dans l'accompagnement de la rénovation énergétique des logements. Il est crucial de rappeler que sans ces deux éléments, donc l'isolation et la ventilation, nous risquons de rencontrer des problèmes avec les pompes à chaleur installées dans les 10 prochaines années. Par ailleurs, équiper son logement d'une pompe à chaleur coûte cher, entre 15 et 30 000 euros pour un dispositif OO qui puise de l'énergie dans une source souterraine, qui est le plus efficace hein, selon Negawatt, et de 7 à 15 000 euros pour un dispositif RO ou RR. Des aides cumulables existent pour accompagner les ménages dans leurs travaux. La prime coup de pouce chauffage, par exemple, elle est destinée aux particuliers qui remplacent leur chaudière au fioul, charbon ou gaz par un équipement électrique ou fonctionnant aux énergies renouvelables. Son montant est fixé en fonction des ressources de la famille et du modèle choisi, donc de 2 500 à 4 000 euros pour une pompe à chaleur hybride ou RO et au minimum 5 000 euros pour une pompe à chaleur OO, donc la plus performante, hein, comme on le disait. La prime MaPrimeRénov dépend elle aussi du type de ménage et de modèle installé, jusqu'à 4 000 euros pour une pompe à chaleur RO et jusqu'à 10 000 pour une pompe à chaleur géothermique. Conscient de la nécessité d'aider les ménages à financer ces installations, le gouvernement a annoncé 1,6 milliard d'euros supplémentaires aux aides à la rénovation énergétique, portant l'enveloppe totale à 5 milliards d'euros. Objectif 200 000 rénovations d'ampleur, c'est-à-dire portant sur l'isolation et le chauffage en 2024. Pour autant, le chauffage aux énergies fossiles a encore de beaux jours devant lui. Dans une remarquable démonstration de « en même temps », Emmanuel Macron a en effet renoncé à l'interdiction des chaudières à gaz, même si les aides à leur installation devraient être progressivement raboté. Voilà, on avance à un train de sénateurs sur la rénovation énergétique pour ne pas trop fâcher les groupes pétroliers, également pas trop fâcher les propriétaires qui n'ont pas toujours compris que ce n'était pas un pur objet spéculatif, mais qu'il convenait de l'entretenir et afin de répondre évidemment à un besoin fondamental, c'est-à-dire d'avoir un toit sur la tête. Article complémentaire alors sur le transport et sur l'électricité, très éclairant, hein, de Neuvetic du 28 septembre avec Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, hein, qui estime qu'il devra consommer la moitié de l'électricité allemande pour pouvoir voler vert. Et l'article nous dit que le mythe de l'avion vert est une nouvelle fois mis à mal, puisque donc le patron de la Lufthansa a reconnu que la conversion de sa flotte au carburant de synthèse va nécessiter l'équivalent de la moitié de l'électricité produite en Allemagne. De quoi mettre en avant les limites de la décarbonation du secteur. Les carburants de synthèse, également appelés e-fuel, combinent l'hydrogène et du CO2 capté dans l'air ou dans les fumées industrielles. Pour être considérés comme verts, ils doivent être produits à partir de sources décarbonées comme les énergies renouvelables. Ces carburants de synthèse font partie de la famille des carburants aériens durables, acronyme anglais SAF, aux côtés des biocarburants, alors on dit plutôt les agrocarburants, il me semble, parce que ça n'a pas grand-chose de bio, les seuls utilisés aujourd'hui est de l'hydrogène vert encore au stade de prototype. Et cette quantité astronomique d'électricité, l'Agence fédérale des réseaux et le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck des Verts, on ne me la donnera pas, reconnaît Lucid Carsten Spohr, qui ne baisse pas pour autant les bras. Selon lui, la solution réaliste passe par l'achat de ce combustible synthétique à l'étranger, là où l'énergie éolienne ou solaire est disponible en quantité pratiquement illimitée, a-t-il ajouté, sans citer de pays précis. Ce chemin sera long, mais c'est le bon, c'est dit convaincu, donc Carsten Spohr, qui est le patron de la Lufthansa. Le constat qu'il dresse est correct, la conclusion qu'il tire ne l'est pas, commence sur LinkedIn l'ingénieur Maxence Cordier. Selon ce spécialiste de l'énergie, la priorité est de décarboner l'électricité pour ses usages actuels avant de la convertir en carburant de synthèse. Il souligne également que la plupart des pays qui se positionnent sur la production d'hydrogène pour l'exportation sont des pays dont le bouquet électrique a une intensité carbone très élevée et où l'ensemble de la population n'a pas accès à l'électricité et où il y a des contraintes d'accès à l'eau qui est nécessaire pour produire l'hydrogène. Il semble de fait assez peu réaliste que ces pays parviennent à répondre à cette triple exigence. Premièrement, décarboner leur électricité. Deuxièmement, offrir l'accès à l'électricité pour tous. Et troisièmement, produire assez d'électricité pour produire des carburants de synthèse destinés à l'exportation dans un délai relativement court. Finalement, la conclusion difficilement acceptable que le PDG de la Lufthansa aurait dû tirer est que la décarbonation du trafic aérien passera aussi et surtout par une forte réduction d'usage, conclut Maxence Cordier, l'ingénieur. Voilà, c'est assez clair. L'article se poursuit. Cette question de la réduction du trafic reste tabou. On est sur des enjeux de sobriété. C'est totalement contradictoire avec le laisser-faire capitaliste et consommer plus pour s'enrichir plus. Pour arriver à zéro émission nette d'ici 2050, le principal levier envisagé est la compensation au travers d'un mécanisme appelé CORSIA. Ce système, adopté en 2016, doit permettre au secteur aérien de compenser la hausse de ses émissions afin de les maintenir à leur niveau moyen de 2019-2020 sur une base volontaire à partir de 2024, puis contraignante à partir de 2027. Seulement, le système a une nouvelle fois été revu à la baisse lors d'une réunion internationale, si bien que, selon les calculs de Transport and Environment, seulement 22% des émissions internationales totales seraient compensées d'ici 2030. L'autre levier repose sur les carburants aériens durables, dont on voit les limites, donc on en a parlé, hein. Et en plus, il faut ajouter une envolée des coûts. L'Union européenne va ainsi imposer à partir de 2025 d'incorporer en moyenne 2% donc de ces carburants durable dans le kérosène des vols en Europe et au départ de l'Europe. En 2030, ce pourcentage passera à 6%, puis au final 70% en 2050, date à laquelle le transport aérien s'est engagé à atteindre la neutralité carbone. Mais à partir de 2030, il faudra que les agrocarburants soient compensés par des carburants synthétiques, avec une part croissante atteignant 35% en 2050. Le problème, c'est qu'il reste à produire assez d'électricité décarbonée pour que nos avions volent vraiment vert. Un article signé Concepción Alvarez de Novetic du 28 septembre, mais l'essentiel de la conclusion, c'est celle sur laquelle on s'est arrêté, bien sûr, qui est celle de la sobriété et de limiter drastiquement les usages. Et puis pour terminer cette page, nous allons aborder très très rapidement un sujet concernant le nucléaire. Toujours sur l'électricité, avec Reporter, donc 18 septembre, qui revient sur le coût du nucléaire et le rapport de la Commission de régulation de l'énergie. Contexte, le coût complet de la production des 56 réacteurs nucléaires existants et de l'EPR de Flamanville varie entre 57 et 61 euros le mégawattheure pour la période 2026-2040, une estimation plus élevée que la précédente établie en 2020, qui l'évaluait à 48 euros le coût du mégawattheure. Donc là, on voit qu'on est au moins 20% au-dessus. Hein. Selon la Tribune, la question suscite un silence gêné au plus haut de l'État. Cette synthèse a été remise au gouvernement le 13 septembre et devait être présenté à la presse le lendemain lors de la réunion de rentrée de la Commission de régulation de l'énergie. Il n'en a rien été. Elle pourrait néanmoins être publiée dans les prochains jours, selon Contexte. L'évaluation du coût du nucléaire représente un enjeu immense pour l'avenir d'EDF. Depuis 2011, l'électricien est contraint de vendre chaque année 100 TWh d'énergie nucléaire à ses concurrents au prix fixe de 42 euros le mégawattheure dans le cadre de l'AREN, donc l'accès régulé au nucléaire historique. Ce mécanisme prendra fin le 31 décembre 2025. La France travaille à lui trouver un successeur dans le cadre plus large de la réforme du marché européen de l'électricité. EDF veut profiter de cette réforme pour fixer le prix de vente de son électricité nucléaire à un prix plus avantageux pour dégager la marge de manœuvre nécessaire au prolongement et au renouvellement de son parc. Le 7 septembre dernier, il a mis en vente deux rubans de 100 MW d'électricité à livrer en 2027-2028, un peu en dessous de 100 euros par MWh, avait déclaré Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF, en charge du pôle client, soit plus de 30 euros de plus que l'évaluation de la Commission de régulation de l'énergie. On n'est pas sorti de l'auberge et on voit toute l'absurdité évidemment de ces raisonnements économiques autour du nucléaire. Allez, on se fait une dernière petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Face à la merde, La bombache et les lâches, la famine et les mines, les cravaches et les vaches, le chômage, les otages, les déprimes et les primes, les péages, les sondages, les massacres et les sacres, les envieux, les jaloux, les enjeux, les enjoues, les affreux, les odieux, les banlieues, les bons dieux, les branlants, les branleurs, les démons, les menteurs, les tyrans, les tireurs. La saverne, tout doit disparaître. Face à la merde, on liquide la planète. Face à la merde, on va refaire le monde. Face à la merde, il y en aura pour tout le monde.
Tout doit disparaître.
Les envieux, les jaloux, les enjeux, les enjoues, les affreux, les odieux, les banlieues, les bons dieux, les branlants, les branleurs, les démons, les menteurs, les tyrans, les tireurs. Face à la merde, il y en aura pour tout le monde. C'est la merde, on tout doit disparaître. Face à la merde, on liquide la planète. Face à la merde, tout doit disparaître.
C'était Jacques Dutronc, Face à la merde. Vous êtes sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeterres, et c'est vraiment les 10 petites dernières minutes. Pour finir, voilà, je voulais évoquer un communiqué qui est repris sur le site La Relève et la Peste, un communiqué du 26 septembre, en tout cas un article plutôt, pardon, autour du collectif pour le triangle de Gonesse, pour sauver les 110 hectares fertiles de ce triangle. Alors effectivement, loisirs, centre commercial, pôle économique, tous les projets étaient bons pour artificialiser le triangle de Gonesse, donc qui se trouve au nord-est de Paris, et justifier le projet de gare de la ligne 17 du Grand Paris. Pourtant, face à la fronde des habitants, aucun de ces projets ne s'est concrétisé. Cette fois-ci, les pouvoirs publics reviennent avec la volonté de construire une cité scolaire en plein milieu des champs. Tout est bon pour artificialiser le triangle de Gonesse, quitte à prendre en otage des jeunes, explique Bernard Loup, qui est président du collectif pour le triangle de Gonesse et qui est vent debout contre la possible construction de la cité scolaire. Comme les pouvoirs publics n'ont rien pour justifier la gare de la ligne 17, qui doit se construire en plein champ et accompagner l'artificialisation des terres, ils veulent une cité scolaire. Le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, d'Hiver Gauche, ne pourra pas expliquer en 2026, année des prochaines élections municipales, on a fait venir le métro, mais il faut marcher 1500 mètres pour y aller, assène Jean-Baptiste Péjon, élu Europe Écologie Les Verts au Conseil régional d'Île-de-France et administrateur au Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. La gare va amener avec elle une urbanisation pour y accéder, des routes, des lignes de bus, détaille-t-il. La ligne 17 est en chantier. Le tunnel pour accéder au triangle est terminé, les rails sont en train d'être posés, la construction de la gare devrait commencer en 2024, les essais se tiendront en 2026, la mise en service est prévue en 2030. Alors, annoncé en 2021 par Jean Castex, alors Premier ministre, le projet de cité scolaire reste flou. Il y a besoin d'un nouveau lycée dans l'est du Val-d'Oise, mais d'autres sites sont bien plus adéquats pour accueillir l'établissement, confie Karine Pellegrin, élue Génération Écologie, au Conseil Régional d'Île-de-France. Un terrain de Villiers-le-Bel qui jouxte un complexe sportif avec piscine et terrain de sport serait le plus adapté pour les jeunes, commente Bernard Loup, qui est donc président du collectif pour le Triangle de Gonesse. Le plan dévoilé par Jean Castex prévoyait également la construction d'un centre pénitentiaire dans le Val d'Oise. 6 sites étaient envisageables pour la construction de celui-ci, dont un à Goussainville, à proximité des pistes nord de l'aéroport de Roissy. En janvier dernier, une concertation sur l'implantation de la prison a eu lieu. Le site de Goussainville n'a pas été retenu en raison des nuisances liées aux avions. Or, la cité scolaire implantée sur le triangle de Gonesse serait elle aussi exposée d'une part aux pistes sud de Roissy et d'autre part aux pistes du Bourget. Le trafic aérien est continu, de jour comme de nuit, au-dessus du site, peu approprié pour une cité scolaire qui accueillerait un internat d'excellence. C'est scandaleux, c'est M. Bernard Loup qui organise une ZAD dimanche, qui a organisé, puisque c'était hier 1er octobre, sur le triangle de Gonesse, pour protester contre le projet. S'ils avaient voulu implanter une prison, ils auraient sans doute été confrontés à une mobilisation de la population contre ce projet. Ils ont été finaux dans le choix d'une cité scolaire, explique Karine Pellegrin. La cité scolaire va, entre guillemets, sauver la future gare de la ligne 17, qui n'est pas du tout rentable puisque éloignée du centre-ville, déclare Jean-Baptiste Pejon. Idéalement, il faudrait la construire près de l'hôpital de Gonesse, selon Karine Pellegrin, seul endroit viable économiquement. Il y a un vrai enjeu de modèle de développement, développe Karine Pellegrin. Le triangle de Gonesse pourrait servir de ressource agricole pour la restauration collective du département, avec un fonctionnement en circuit court, comme la logique de développement écologique le voudrait. Pourtant, certains pouvoirs publics s'obstinent à artificialiser les terres. Bon, on voit bien, pour conclure en tout cas l'émission, qu'on disait que l'objectif de 20% des repas bio dans les cantines n'étaient pas atteints. Et là, on voit finalement qu'on est en train de trouver des motifs de construire un groupe scolaire sous une ligne d'avion avec des nuisances importantes, et puis surtout à 1500 mètres à pied de ce site. Et on voit bien que c'est une méthode pour essayer de grignoter petit à petit l'espace et finalement atteindre une rentabilité économique alors que le besoin n'est absolument pas présent. Donc on est bien dans une vision qui marche absolument sur la tête. Et toutes les initiatives du collectif pour sauver les 110 hectares fertiles du triangle de Gonesse sont évidemment à soutenir. Voilà, l'émission touche à sa fin. On va se quitter et on se retrouve comme d'habitude le premier lundi du mois de novembre et cela à 18h. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Contre le sommeil, on ne disposait que de quelques produits comme les amphétamines ou la caféine. Les amphétamines sont responsables d'effets secondaires qui ne permettent pas de les utiliser longtemps, troubles visuels, palpitations, anxiété et surtout des phénomènes de dépendance. Toute complication difficilement compatible avec les activités d'un militaire pendant un conflit. Les singes ont pu être maintenus éveillés pendant 4 jours et 4 nuits. Les nouveaux équipements militaires rendent possible la vision de nuit. Il n'y aurait donc pas de répit en cas de conflit, d'où l'intérêt de ce médicament qui maintient une vigilance quasi normale en l'absence de sommeil.
Minuit. n'était pas plus haut que votre Kuwait.
I have a statement by the President of the United States.
Mais alors, vraiment, un bon conseil, tous aux abris, 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 aux abris. Vous ne pouvez pas imaginer, ils encerclent le Parlement et se préparent à l'attaque. Le soleil est si bon que
la lueur des ombres se perd.
Les secours maritimes ont retrouvé hier le chalutier.
Monsieur Pretoria.
Oui.
Bonsoir. Vous posez votre question.
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, 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 la fin du monde.
Il est 2h-10, il est 3h-10, pardon, du matin.
Oui, notamment pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant.
Minou, Minou, où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
L'édito du lundi 2 octobre 2023 du Monde Merveilleux d'après. Le 4 septembre, nous avons loupé notre rentrée sur les ondes pour cause de maladie. Mais nous ne pouvions ignorer alors ce 4 septembre et ne pas évoquer une certaine idée de la République. C'est en effet le 4 septembre 1870 que la Troisième République est instaurée, proclamée, à la suite de la chute du Second Empire. Mais la République revêt plusieurs interprétations et conduira la population des grands centres urbains et des communes rurales à confronter leurs visions, tantôt sociales, tantôt fantasmées, et suivant des intérêts internationalistes ou chauvins. Ces deux tendances trouveront leurs interprétations dans le communalisme de 1871 et le jacobinisme bourgeois qui réprimera ces tentatives égalitaires et libertaires. Nous allons donc convoquer l'histoire pour comprendre notre actualité. Mais tout de suite, dans le monde merveilleux du travail,
Toujours acerbe, toujours haineux, toujours grincheux, nous écoutons la chronique du Mercator.
Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hourra. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ?
Ah ouais, patron, fais-nous plaisir et ferme ta gueule.
Amis auditeurs du monde merveilleux du travail, vieux chiant, karatémique au loin, Manu là-haut quelque part, camarade technicienne engourdie aphrodite de la bicyclette rurale, bonsoir. Aujourd'hui, enfin, la dernière fois, c'était le 4 septembre. Le 4 septembre est un jour particulier, comme il vient de vous être dit. C'est d'abord la rentrée des classes pour des centaines de milliers d'écoliers dont les parents, quel que soit leur revenu, devront débourser, ont dû débourser, 11,3% de plus de bon argent pour équiper leur progéniture en stylo, en cahier et autres effets de saison. Selon les sources, le coût moyen par élève s'élèverait à ce jour à 1200 euros. L'allocation de rentrée scolaire est d'un montant maximum de 600 euros, mais conditionnée au revenu du foyer. Donc elle peut rapidement diminuer et s'avérer